France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Une centaine de morts au Liban, plus d'un millier en Iran. Le bilan de la guerre au Proche et au Moyen-Orient ne cesse de s'alourdir. Dans la banlieue sud de Beyrouth, la panique gagne les habitants menacés par les frappes israéliennes. Nous serons sur place dans un instant et nous ferons aussi le point sur la riposte iranienne. L'Iran accusé d'avoir ciblé l'Azerbaïdjan. L'Europe et les pays du Golfe appellent ce soir Téhéran à cesser ces attaques qui menaceraient la sécurité mondiale. L'Union européenne spectatrice d'un conflit qu'elle ne maîtrise pas. En France, Bruno Retailleau dénonce des accords de la honte au premier tour des municipales. 112 accords conclus entre LFI et des partis de gauche, selon le patron des Républicains. À 18h15, maire pourquoi faire, notre rendez-vous avant les municipales. Aujourd'hui, les enjeux de la démocratie participative pour associer les citoyens à la décision. 102 morts et 638 blessés, c'est le dernier bilan des frappes israéliennes sur le Liban, selon le ministère libanais de la Santé. Israël qui a pénétré hier dans plusieurs villages du sud du pays pour mettre en place une zone tampon. Dans le même temps, l'État hébreu pilonne la banlieue sud de Beyrouth, le fief du Hezbollah pro-iranien. L'armée israélienne a publié aujourd'hui un ordre d'évacuation pour 4 quartiers, majoritairement favorables à la milice. Résultat, un énorme mouvement de panique et des embouteillages monstres. Les habitants redoute un bombardement massif d'ici ce soir. Le reportage sur place à Beyrouth d'Étienne Monin et Martin Troadec.
C'est un soudain mouvement de foule. Vers 14h30, des colonnes de voitures et des nuées de scooters déboulent des quartiers sud de Beyrouth. Les gens sont en fuite. Ils avancent par choc contre par choc vers les hauteurs. Maha est partie avec son petit-fils, les mains vides.
Rien. On n'a rien pris. On allait faire quelques courses pour la maison, mais on n'a rien pu faire. On a juste fui.
L'avertissement de l'armée est à une échelle jamais vue jusqu'à présent. Il couvre toute la banlieue chiite de Beyrouth. Elle est ciblée depuis 4 jours, mais Ali, qui n'avait pas encore quitté le secteur, craint un tapis de bombes.
Dès la guerre qui commence, je dors dans ma maison. Maintenant, car ils vont attaquer tous les banlieues, pas comme avant, un bâtiment, une maison, maintenant tous les banlieues. Je veux choisir de partir car je ne peux pas rester là-bas. Je veux vivre.
Les habitants sont maintenant dans la tente. Certains se préparent à dormir s'il le faut dans leur voiture. Avec cette menace, le nombre de déplacés dans Beyrouth augmente considérablement.
Étienne Monin et Martin Troadec, envoyés spéciaux de France Culture au Liban. Ce soir, le président libanais Michel Aoun demande à Emmanuel Macron d'intervenir auprès d'Israël pour empêcher ce bombardement redouté sur Beyrouth Sud. En Iran, le régime des Mollahs est toujours en place et les frappes israélo-américaines auraient déjà fait 1230 morts depuis samedi. C'est ce qu'affirme l'agence de presse officielle IRNA. L'Iran qui tente de riposter en lançant des drones et des missiles un peu partout dans le Golfe Persique et même au-delà. Bonsoir Nicolas Joly.
Bonsoir.
L'Iran accusé aujourd'hui d'avoir ciblé l'Azerbaïdjan dans le Caucase.
Oui, l'Azerbaïdjan annonce avoir été frappé par 2 drones iraniens et promet des représailles. L'attaque a eu lieu sur un aéroport et près d'une école. L'armée iranienne, elle, dément toute frappe de drone et rejette la faute sur Israël. En vérité, toutes les monarchies pétrolières du Golfe sont désormais aspirées dans ce conflit. Des déflagrations ont résonné. Une colonne de fumée s'est élevée ce matin dans la capitale du Qatar, Doha. Des explosions et également à Manama, capitale de Bahreïn. 6 personnes ont été blessées par des débris de drones dans une zone industrielle d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Chaos dans les airs, vous le comprenez, mais aussi en mer. Quelques 20 000 marins et 15 000 passagers sont bloqués dans le Golfe Persique, selon le secrétaire général de l'Organisation Maritime Internationale, une agence de l'ONU. L'Iran affirme contrôler totalement le détroit d'Ormuz, ce point de passage maritime entre le Golfe Persique et la mer d'Arabie, désormais classée zone de guerre, mais qui est stratégique pour le commerce mondial du pétrole. Un général iranien promet de brûler tout navire qui voudrait le franchir. Et les gardiens de la révolution iraniens ont d'ailleurs annoncé avoir frappé un pétrolier américain dans le Golfe Persique. Ils affirment aussi avoir lancé de nouvelles salves vers Israël sur l'aéroport international Ben Gurion et une base aérienne dans la zone. Alors qu'à Beyrouth, capitale du Liban, on l'entendait, la panique résonne depuis que l'armée israélienne appelle à évacuer la banlieue sud. Et à Riyad, en Arabie Saoudite, des diplomates occidentaux ont été appelés à se mettre à l'abri. Selon un témoin sur place, le quartier diplomatique de la capitale saoudienne a été bouclé par les forces de l'ordre.
Nicolas Joly de la rédaction internationale de Radio France. Lundi, Donald Trump avait fixé 4 objectifs à sa guerre. guerre contre l'Iran. Mais le renversement du régime des Mollahs ne figurait pas dans la liste, le président américain cherchant d'abord à l'empêcher, ce régime, de se doter de l'arme nucléaire. Mais les États-Unis ont-ils l'intention de confier à d'autres la mission de renverser le régime ? La presse américaine évoque ainsi les forces kurdes présentes en Irak. Information démentie par la Maison-Blanche. Franck Madvon nous appelle de Washington.
La seule certitude, c'est qu'il y a bien des contacts entre les Kurdes et l'administration américaine. Mais il y a plusieurs milices ou partis kurdes, parfois rivaux, dans différents pays, ce qui présente une première difficulté. En tout cas, plusieurs sources confirment que Donald Trump a demandé aux chefs des deux principaux mouvements kurdes dans l'est de l'Irak, Barzani et Talabani, de permettre aux Kurdes iraniens d'Irak d'entrer dans leur pays. Des milliers d'hommes, de part et d'autre de la frontière Iran-Irak, pourraient lancer un soulèvement. Par ailleurs, d'après plusieurs médias américains, la CIA est en contact avec ces groupes, elle leur fournit déjà quelques armes et le Mossad israélien leur apporte aussi un soutien. Les États-Unis comptent également sur l'appui des deux grands mouvements kurdes d'Irak, d'où la pression exercée sur eux par Donald Trump, pression à laquelle il est difficile de résister. En tout état de cause, ces forces kurdes manquent d'armes lourdes pour mener une insurrection réellement menaçante pour le pouvoir à Téhéran. Elles ne bénéficient pas du soutien de la population, il s'agit de minorités. Mais Washington y voit un facteur d'instabilité supplémentaire pour parvenir à la chute du régime iranien.
Dans cette guerre voulue par les Américains et les Israéliens, l'Europe est d'abord une spectatrice impuissante, même si la France a décidé d'envoyer le porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée orientale. L'Union européenne entend malgré tout faire entendre sa voix, comme aujourd'hui à Bruxelles. Une visioconférence a réuni les ministres des Affaires étrangères de l'UE et leurs homologues des pays du Golfe, Bahreïn, Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis, Koweït et Oman. Bruxelles, où l'on retrouve Fabien Cazot, bonsoir.
Bonsoir.
Fabien, les deux parties exigent que l'Iran cesse ses attaques au Moyen-Orient.
Effectivement, un appel lancé aujourd'hui par les 27 ministres européens des Affaires étrangères et leurs homologues moyen-orientaux dans un format de discussion inédit ici à Bruxelles qui a été convoqué dès dimanche dernier au lendemain des premières frappes israélo-américaines contre l'Iran face aux craintes de dissémination du conflit qui se sont depuis vérifiées. Pour la chef de la diplomatie européenne Kaya Kallas, il y a un et un seul responsable à cette situation.
L'Iran tente d'exporter la guerre dans le plus grand nombre de pays possible. Nous appelons au contraire à la stabilité et voulons voir ce que nous pouvons faire ensemble.
Parmi les priorités que se donnent les 27, il y a aussi le rapatriement des ressortissants européens. Les services consulaires dans les ambassades sont à pied d'œuvre, assurent les diplomates européens qui comptent aussi sur leurs homologues du Golfe pour faciliter les opérations sur place. Enfin, dernier sujet discuté aujourd'hui d'ordre militaire, celui-là, la protection des pays du Golfe contre les drones iraniens, les mêmes que la Russie envoie sur l'Ukraine depuis plusieurs années. Kiev pourrait être mise à contribution d'ailleurs pour faire profiter les pays arabes de son expertise en matière de lutte anti-drone.
Fabien Cazot en direct de Bruxelles, merci. Partout en Europe, la guerre au Moyen-Orient entraîne une hausse significative des prix des carburants. En France, hier matin, le litre de gazole était à 1,86€ en moyenne et celui du sans-plomb 95 à 1,83€ selon les données du ministère de l'Économie. Dans le prix du carburant, il y a 50% de taxes. Les 50% restants dépendent largement des prix du marché, ce qui limite les marges de manœuvre pour faire baisser les prix, Marine Corbet.
D'abord, il y a les stations-service. Et là, le gouvernement affirme qu'elles seront très contrôlées par la répression des fraudes. Mais leur marge de manœuvre est en fait assez faible. Les coûts de distribution représentent 15% du prix total du carburant. Même si les indépendants peuvent fixer le prix à la pompe librement, ils n'ont aucun intérêt à le tirer vers le haut, selon Francis Pousse. Le président des stations Mobilian était à La Réunion, à Bercy, ce matin.
Que l'on soit en contrat de commission ou que l'on soit en contrat d'acheteur ferme, c'est-à-dire qu'on a la main sur la marge, on ne peut pas faire n'importe quoi, puisque les grandes surfaces ayant, elles, 63% de part de marché, on ne peut pas se permettre d'être décalé d'un prix au risque de plus rien vendre du tout.
Pour l'instant, l'État affirme avoir constaté quelques abus, mais ils sont marginaux. Ensuite, il y a les compagnies pétrolières. Et là, c'est 30% du prix à la pompe. Elles peuvent augmenter leur prix en suivant la spéculation sur le coût du baril, alors même qu'elles n'ont pas besoin de dépenser plus pour exploiter le pétrole. Explication de l'économiste David Keller.
Ceux qui profitent vraiment de la hausse du prix du pétrole sont les producteurs de pétrole brut, comme Total ou d'autres entreprises pétrolières. Elles ne se situent pas sur la zone du Golfe Persique. Elles vendent plus cher le pétrole alors que leurs coûts de production n'ont pas augmenté. C'est clair que Total, qui a des investissements dans d'autres régions, profite à actuellement de la hausse du prix du pétrole. Aucun État, aucun pays ne peut à lui tout seul contrôler les prix du pétrole. Aujourd'hui, personne ne les contrôle réellement.
L'Union française des industries pétrolières publie chaque lundi la décomposition des prix du carburant. Nous pourrons ainsi voir à quel niveau ils évoluent. Toujours est-il que selon l'ONG Global Witness, les compagnies pétrolières étaient les grandes gagnantes de l'invasion de l'Ukraine. Elles ont réalisé des bénéfices records de plus de 260 milliards d'euros entre février 2022 et février 2024.
La question des alliances domine la dernière ligne droite de la campagne des élections municipales, à 10 jours maintenant du premier tour. Le patron du Parti Les Républicains, Bruno Retailleau, s'en prend aujourd'hui à ce qu'il appelle les accords de la honte entre la France Insoumise et les autres formations de gauche. L'ancien ministre de l'Intérieur en a recensé 112. Bonsoir Jeanne Serrin.
Bonsoir.
Pour Bruno Retailleau, les dirigeants socialistes, écologistes ou communistes qui auraient validé ces accords de la honte sont des tartuffes.
Oui. Et pour illustrer son propos, c'est au Blanc-Mesnil que Bruno Retailleau a choisi de faire sa conférence de presse ce matin. La commune de Seine-Saint-Denis, où la tête de liste d'hiver gauche est un communiste soutenu par la France Insoumise, les écologistes et le Parti Socialiste. Une alliance qui n'est pas un cas isolé, selon Bruno Retailleau.
Nos équipes, nos fédérations, qui nous ont fait remonter dans les départements de France, d'outre-mer, les cas de ces accords en ont dénombré 112. 112, donc il n'y a pas quelques accords.
Alors dans le détail, d'après lui, 44 listes sont soutenues par les quatre formations de gauche, insoumis, écologistes, communistes et socialistes, dans des préfectures notamment, Chartres, Niort ou encore Beauvais. Les LR identifient aussi 5 accords bilatéraux, LFIPS. Pourtant, les socialistes l'ont répété cette semaine, il n'y a pas eu d'accord national avec les insoumis. Bruno Retailleau demande donc une clarification.
Ou ils revendiquent des accords, ou alors ils les dénoncent. Et ce que je demande, moi, au parti de gauche, c'est de clarifier, commune par commune, qui demande à celles et ceux qui sont sur ces listes, qui les enjoignent justement de retirer les logos. Le feront-ils ? Non, c'est une bande de tartuffes.
Tartuffe, l'insulte a fait immédiatement réagir au PS. Ces soi-disant accords sont en réalité des listes citoyennes qui n'ont pas été validées par la direction nationale, se défend le secrétaire général du parti, précisant que lui aussi dispose d'une liste de 15 pages sur les alliances entre LR et l'extrême droite, des documents qui restent pour l'heure dans ses classeurs.
Jeanne Serrin, merci. On vous retrouve après ce journal pour notre chronique Maire, pourquoi faire ? Les délais pour repasser le permis de conduire après un échec ne cessent de s'allonger, 2 mois et demi aujourd'hui en moyenne, selon l'intersyndicale de l'éducation routière. On est loin de l'objectif de 45 jours fixé par la loi Macron en 2015. Il faut savoir que la demande de permis augmente, plus 15% par rapport à 2019, alors que le nombre d'inspecteurs, lui, n'a pas vraiment bougé. Il y a une autre explication pointée par les auto-écoles, le niveau des candidats après 20 heures de conduite, un socle jugé insuffisant face à l'évolution de la circulation routière. Émilie Tran.
Les conditions pour passer son permis ne sont plus celles d'il y a 20 ans. Les aménagements vélo et piétons, par exemple, sont plus nombreux et compliquent le trafic, d'après Isaac Belin, moniteur d'auto-école à Paris depuis 14 ans.
Comme les configurations des routes n'ont pas été modifiées, ça veut dire plus de place pour les vélos et les piétons, ça veut dire moins de place pour les voitures.
Ce qui entraîne des bouchons contraignants sur 2 heures de leçon.
Nous, à Paris, on aime bien, par exemple, sortir à Créteil pour aller travailler. Il y a 10 ans, il fallait 20 minutes pour y aller. Aujourd'hui, si on met 30 minutes, on est content. Il faut se dire que ça fait 10 minutes de perdu à l'aller, 10 minutes de perdu au retour. Et ça, additionné sur toute une formation, en fait, c'est énorme en volume d'heures. Juste pour compenser des bouchons, en fait.
Avec un minimum de 20 heures de conduite, les élèves se pensent rapidement prêts. C'est trop peu, selon Christine Oberholz, présidente du syndicat d'auto-école Unidec. Elle souhaite augmenter ce seuil à 28 heures.
Les élèves, en fait, lorsqu'ils arrivent, ils disent « Moi, je vais prendre 20 heures, et puis en 20 heures, je serai prêt, je serai bon et je vais réussir. » Ça signifie que pour l'enseignant de la conduite et l'auto-école, il faut lutter pour dire « Non, vous n'êtes pas prêt. Vous allez passer votre examen, vous allez le rater là maintenant. Il faut reprendre des heures en plus. »
Ce système crée des tensions entre élèves et moniteurs. Le président du groupe d'auto-école ECF, Patrick Mirouz, suggère donc de former les jeunes à la conduite accompagnée dès 14 ans, puisque ce dispositif a un taux de réussite 20% plus élevé que la formation classique.
Si on mettait peut-être un code de la route dès 14 ans, c'est le premier niveau d'apprentissage, et puis après qu'on commence à faire entre 14 et 15 la formation initiale pour la conduite accompagnée, pour partir entre 15 et 17 sur un processus d'apprentissage et d'acquisition d'expérience.
Le syndicat majoritaire des inspecteurs du permis de conduire appelle à augmenter les effectifs de plus de 10% pour faire face à la hausse du nombre de candidats à l'examen.
Un mot du temps demain, pluvieux au sud de la Garonne au pourtour méditerranéen, des pluies également sur la Bretagne, ailleurs un temps calme, avec un ciel voilé par endroits. Demain matin, il fera entre 1 et 12 degrés en général. L'après-midi, le thermomètre oscillera entre 10 et 21 degrés.
France Culture, élection municipale 2026. Maire, pourquoi faire ?
Maire, pourquoi faire, notre rendez-vous hebdomadaire avant les élections municipales des 15 et 22 mars. Une question aujourd'hui, comment faire vivre la démocratie locale ? Assemblée citoyenne, conseil de quartier, budget participatif, les expériences de ce que l'on appelle la démocratie participative sont légion en France à l'échelon municipal. Pour répondre à la crise de la représentativité, de plus en plus de communes cherchent à associer les citoyens à la prise de décision. Exemple, Vaour, 450 habitants dans le Tarn, où une liste citoyenne a été élue en 2020. En 6 ans, elle a révolutionné le fonctionnement de la mairie. Le reportage à Vaour de Jeanne Serrin.
Alors, bonjour à tout le monde.
Ils sont 9 élus et 9 non-élus à se donner rendez-vous toutes les 2 semaines à la mairie, en fin de journée. Ils sont assis en cercle et décident d'un ordre du jour écrit sur un tableau, avant de débattre pendant 2 heures de chaque sujet. Voilà comment fonctionne le groupe de coordination de Vaour, l'organe décisionnel de la commune, imaginé par la liste citoyenne élue en 2020. Jeanne, la trentaine, infirmière, est l'une des animatrices du groupe.
On aura une quinzaine de points à l'ordre du jour. Et donc là, notamment, des habitants vont venir faire une demande du café associatif qui est juste à côté. Donc c'est une demande pour créer une place handicapée.
Et il va y avoir un vote à l'issue ?
Non, c'est qu'une décision au consentement. Quand il y a une décision, l'animatrice, après les discussions, va formuler une proposition en disant « Est-ce que vous êtes OK pour ça ?» S'il y a des objections, la personne donne son objection. On va essayer de reformuler la proposition pour que l'objection soit levée. Et en fait, on ne prend jamais une décision si on a un de nous, un des membres de la coordo, qui a une objection. Et on a, en 6 ans, on n'a jamais eu cette situation-là.
Bon, est-ce qu'il y a une objection ? Est-ce qu'on soutienne l'équipe du carnaval comme ça ? Non, ok, donc ça c'est acté.
Les mesures soumises au vote ont été au préalable proposées par des commissions thématiques qui réunissent aussi des élus et des non-élus. Au sein du groupe de coordination, les sièges dédiés aux habitants sont renouvelés, ce qui offre à tout le monde une chance de pouvoir participer.
Est-ce qu'on peut s'arrêter ou est-ce qu'il y a autre chose à dire ? Damien ?
Un fonctionnement qui s'est mis en place petit à petit, en 6 ans. Même si des conflits ont pu avoir lieu, le groupe ne s'est jamais effondré, se réjouit Claire, l'autre animatrice du groupe.
Quand on est sur ce processus, la magie, c'est que, en fait, si on a tous consenti, alors il n'y a pas d'amertume ou de rancœur. Une des plus grandes victoires, je dirais, c'est qu'on était 18 et on arrive au bout avec ce groupe, on est encore 18. C'est déjà incroyable.
Depuis plusieurs semaines, les réunions accueillent aussi des observateurs, des habitants, des villages aux alentours, intéressés par l'exemple qu'offre Vaour et qu'ils se verraient bien calqués dans leur commune. Ce mode de participation citoyenne, c'est ce qui a convaincu Thierry de s'installer ici.
Parce que j'avais déjà un engagement citoyen en tant qu'élu dans une commune du nord-ouest toulousain. Je questionnais pas vraiment la démocratie participative et quand j'ai appris donc ce qui se passait à Vaour, j'ai trouvé le projet progressiste, merveilleux quoi. À vrai dire, ça m'a ouvert les yeux. C'est unique en France. Hein. Toutes les personnes qui disent mais non, les citoyens ne peuvent pas décider au même titre que le maire, ne peuvent pas avoir une voix supérieure au maire ou égale au maire. Mais si.
À cette réunion, le maire n'a pas de place dédiée, il est assis avec les autres, prend des notes et participe aux échanges.
Première info, c'est que...
Toutes les décisions prises ici sont ensuite validées officiellement par le bureau exécutif, l'organe plus traditionnel qui se réunit chaque semaine, Jérémy Steil, le maire de Vaour.
Alors moi, je me présente souvent comme étant le porte-parole des habitants. Au début, c'était un peu difficile. Il a fallu essuyer pas mal de plâtre et pas mal de mépris aussi en communauté de communes, au département. Non, c'est bien joli vos histoires de participation, mais là, il faut être efficace. C'était ça, c'était l'efficacité. Et je leur disais, mais c'est pas parce qu'on introduit et on prend en considération plus de gens qu'on ne va pas être efficace.
Pour les décisions urgentes, d'ailleurs, il arrive au maire de trancher seul.
On a la confiance du groupe pour prendre des décisions importantes rapidement.
Si le projet en 2020 de sa liste citoyenne était avant tout de redonner du pouvoir aux habitants, cet objectif, 6 ans après, a été partiellement atteint, car le maire reconnaît que tout le monde ne s'est pas impliqué dans le projet.
Non, clairement non. On aurait pu aller plus loin en termes de participation, mais par contre, une grande fierté, c'est qu'il y a un climat de confiance qui s'est instauré dans le village. les clivages se sont apaisés, les gens se parlent. C'était pas tout à fait le cas. En plus, quand on est arrivé, c'était le Covid. Il y avait un gros clivage entre les pro-vax et les anti-vax, entre les néo-ruraux et ceux qui étaient là depuis plus longtemps. Tout ça, on a fait en sorte que ça s'apaise. Et ça, je suis très fier de ça.
Toutefois, Jeremy Steil a choisi de ne pas se représenter.
Pour moi, ça n'aurait pas de sens qu'une nouvelle dynamique participative se mette en place et soit portée par la même personne.
Pour ces élections à Vaour, une liste unique se présente, d'origine citoyenne elle aussi. Elle s'engage à poursuivre le projet participatif.
C'est terminé. Bonne soirée.
Alors, ce projet citoyen de Vaour dans le Tarn est l'un des exemples mis en avant par Fréquence Commune, une coopérative qui accompagne partout en France les listes participatives dans la mise en œuvre d'une gouvernance partagée. Une coopérative cofondée par Elisabeth Daud, avec laquelle vous vous êtes entretenue, Jeanne Serrin.
Dans quel contexte sont nées ces listes participatives ?
Je vais volontairement dézoomer hors de la France pour replacer ce mouvement des listes citoyennes et participatives dans le cadre d'un contexte plus international où depuis 2008, le mouvement des indignés, des places, Occupy Wall Street, Nuit Debout, les Gilets jaunes, il y a une demande des habitants d'être approchés des décisions qui les concernent. Se manifeste au point de départ de création des listes participatives de 2014 et 2020, par exemple, la volonté d'en défaire avec un maire autoritaire, avec des projets inutiles. On a l'exemple du village de Saillon dans la Drôme, 1200 habitants, où la liste citoyenne qui a été victorieuse aux élections de 2014 était précédemment formée par un collectif en lutte contre l'installation d'un supermarché. Donc, il y a la volonté d'être associé à des décisions localement.
Comment ces projets se traduisent-ils localement ?
L'idée, c'est d'aller un peu plus loin que la démocratie participative, c'est-à-dire de lier la participation des habitants à la décision. Ces communes participatives, elles se distinguent par le fait d'avoir déconcentré le pouvoir habituellement détenu par un maire pour en faire des espaces collégiaux. À Auray, par exemple, dans le Morbihan, cette commune, justement, a laissé la place à des parents d'élèves, des cantiniers, des agriculteurs pour relocaliser à l'échelle d'un mandat, l'organisation agricole et alimentaire de la ville, fournir des repas bio et locaux, construire une nouvelle cantine municipale. Donc il y a plein de projets en fait qui montrent que les mairies avec les habitants ont le pouvoir d'orchestrer ensemble des politiques publiques qui sont transformatrices sous différentes formes.
Ces dernières années, pour intégrer davantage leurs habitants, beaucoup de mairies ont misé sur les budgets participatifs. Qu'est-ce que vous pensez de ces derniers ? Est-ce qu'ils ne sont pas devenus parfois des faire-valoir ?
L'arrivée et l'inspiration de Porto Alegre et des budgets participatifs, elle était à regarder d'un côté positif pour l'écoute et l'attention qu'elle prêtait aux remontées de propositions des habitants. Aujourd'hui, on peut le regarder comme des espaces qui sont peut-être à revisiter. En effet, les budgets participatifs aujourd'hui laissent la voix et la participation des habitants sur des parts qui sont non significatives d'un budget communal. Ça, c'est tout un enjeu également.
Votre coopérative dégage un autre axe d'amélioration qui concerne la diversité sociale des habitants qui prennent part au projet, une diversité qui est limitée.
On parle de TLM, de toujours les mêmes, des hommes âgés avec des capitaux sociaux, matériels ou des qualités discursives qui leur permettent une expression en public. Et donc, partant de ce point de départ et recherchant un peu plus d'égalité politique, en allant développer par exemple des méthodes de tirage au sort, mais cette fois-ci tirage au sort sur le cadastre, c'est-à-dire sur le bâti. Il ne s'agit plus d'aller tirer au sort sur les listes électorales qui concernent un tout petit public en France, mais plutôt d'aller tirer au sort des adresses et qui permettent de tirer au sort des personnes qui ne seraient pas forcément inscrites sur les listes, mais qui habitent, qui contribuent, qui travaillent. Il y a vraiment une grande richesse dans le travail qui a été mis en place de 2020 à 2026 et qui ne demande qu'à se consolider.
La campagne municipale entre dans sa dernière ligne droite. Quelle place ce sujet de la démocratie locale occupe-t-il dans les préoccupations des Français ?
Un sondage commun Fréquence Commune avec l'IFOP montre bien que deux Français sur trois souhaiteraient avoir une liste citoyenne et participative dans leur commune et que 74% des Français ne font plus tout à fait confiance en les partis politiques. On pense que la démocratie est boudée, or non. C'est le système politique tel qu'il fonctionne aujourd'hui qui crée du mécontentement. Il y a beaucoup d'appétence de la part des Français de le voir se renouveler.
Elisabeth Do, cofondatrice de la coopérative Fréquence Commune, au micro de Jeanne Serrin, maire Pourquoi Faire, le rendez-vous de la rédaction de France Culture, consacré aux élections municipales, à retrouver sur notre site et sur l'application Radio France.